Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Je profite tout de suite pour vous dire que notre émission de réflexion sur la Torah est immédiatement suivie d'une autre émission qui, elle, est musicale et qui est un vrai régal, c'est un délice. Ça s'appelle Onek Shabbat, c'est que de la musique juive et c'est présenté par le chanteur Raphaël Huizan qui est à Jérusalem. Mais avant toute chose, commençons à étudier un peu. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom. Rav Eli Lemel, on continue sur vol de notre paracha. Donc on arrive maintenant à ce passage que nous lisons dans nos communautés qui s'appelle Balak. Et Balak, c'est l'histoire d'un homme qui va maudire le peuple juif, qui va essayer en tout cas. Vous faites un parallèle avec un autre personnage de la Torah qui s'appelle Lavan. Lavan, c'est le beau-père de Yaakov. Et c'est un peu difficile à comprendre parce que c'est pas du tout le même cas de figure. Lavan trompe Yaakov et d'ailleurs on a du mal à comprendre, c'est vous qui allez nous expliquer parce que finalement on a l'impression plutôt d'une opération commerciale avec tromperie, mais non, c'est plus subtil que ça. Et Bilam, de manière un peu folle, pense qu'il peut maudire tout un peuple et que ça va fonctionner. Donc, pourquoi, d'après vous, ces deux personnages sont à mettre en parallèle, puisqu'ils ont deux histoires totalement différentes, et en plus de ça, à des siècles de différence les uns et les autres?
Oui, tout à fait. On a une paracha dans laquelle on va rencontrer, en effet, Balak, Bilam, ce fameux prophète des nations qui va vouloir nous maudire, et puis on va réaliser qu'au fond, eh bien, va apparaître aussi Lavan, le beau-père de Yaakov, de Jacob. Alors, reprenons un petit peu les faits, j'ai envie de dire. Nous sommes ici donc dans un texte dans lequel la Torah nous relate la peur que va avoir Balak, Meler Tzipor, le roi de Tzipor, face aux enfants d'Israël qui sont en train d'aller vers la terre d'Israël et veut les bloquer, il veut les empêcher d'y accéder. Et donc évidemment, comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il réalise qu'au fond, la force du peuple d'Israël, c'est avant tout dans son rapport au divin, dans la prière. Et donc, il va commanditer un homme qui s'appelle Bilam, le prophète des nations, pour aller les maudire, les enfants d'Israël. Alors, ça veut dire quoi, les maudire, au fond? Eh bien, disent nos maîtres, il y a un moment dans lequel Dieu regarde l'univers avec, on appellerait, le strict attribut de la justice. Le strict attribut de la justice, c'est pas la méchanceté, c'est tout simplement, eh bien, l'application de la règle en tant que telle, point à la ligne. Et Balak a demandé à Bilam de faire en telle sorte, et Bilam sait le faire, que à ce moment-là, eh bien, Bilam met en exergue le dysfonctionnement du peuple juif, parce qu'il y a un dysfonctionnement, nous en avons tous, et donc que l'attribut de la justice, eh bien, génère malheureusement quelque chose de lourd pour le peuple d'Israël. Ça ne fonctionnera pas, évidemment, parce que Dieu a cette liberté de faire en telle sorte que ce moment n'existe pas aussi. Mais c'est ce que Bilam veut faire. Au fond, il veut être mekalel, il veut maudire, il veut faire en telle sorte kal, puisque le mot kalel qui veut dire maudire, ça vient de la racine kal, qui veut dire léger. Il veut dire au fond, ce peuple-là n'a pas de poids, il ne représente rien. Et c'est au fond un petit peu déjà ici une indication sur c'est quoi l'enjeu de Bilam, et on va y revenir dans quelques instants. Vous savez qu'il y a un ennemi juré au peuple d'Israël qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est ce peuple qui devient, j'ai presque envie de dire, un concept par la suite de cette opposition farouche au peuple d'Israël et surtout de tous les idéaux qu'il véhicule, et plus particulièrement et surtout au niveau même de son essence, qu'il y a un créateur de l'univers, que la vie a un but et que donc rien n'est au hasard et qu'à partir de cela, on doit appréhender l'existence de manière radicalement différente. Et c'est intéressant de voir que le terme de Amalek, eh bien, vous retrouvez dedans les deux premières lettres. Aïn Mem, Amalek, correspondent aux deux dernières lettres du mot Bilam. Bilam, ce prophète des nations, Aïn Mem. Et les deux dernières lettres du mot Amalek, Lamed Kouf, correspondent aux deux dernières lettres de Balak. Balak. Donc c'est intéressant de voir que, au fond, Bilam et Balak ensemble forment Amalek. Mais pourquoi ? Balak, c'est la stratégie qui sera celle des armes. Celui qui, en effet, lorsque Bilam, le prophète des nations, ne va pas réussir à les maudire, alors il va dire on prend les armes et puis ben, on y va quand même. Et bien sûr, il va perdre. Il est moins dangereux que Bilam. Pourquoi ? Parce que il prend les armes, il se déclare comme ennemi. Donc évidemment, il va falloir se défendre, mais en même temps, on est au courant. Alors que Bilam, qui est l'autre face de Amalek, c'est beaucoup plus subtil, puisque lui, au fond, il est sur une montagne, dit le texte, et puis on ne le voit pas, nous, on n'est pas au courant qu'il est là. Et il cherche à maudire, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quoi au fond ? Quel est son but ultime ? Eh bien, Bilam, disent nos maîtres, ça correspond au terme de Boléaam. C'est exactement les mêmes lettres, mais avec une prononciation avec des voyelles différentes. Boléaam, celui qui veut absorber le peuple. Ce que j'appellerais la stratégie de l'assimilation. Et quel est le rapport avec la malédiction ? Au fond, comme on l'a vu, le terme malédiction en hébreu, c'est klala, kal. Kal, ça veut dire léger. Il veut faire en telle sorte que le peuple d'Israël n'ait pas de poids dans l'univers, qu'il soit léger, qu'il ne représente rien. Alors, il va chercher donc à être boléa, à l'absorber. Et comment est-ce qu'on absorbe ? Eh bien, de manière assez intéressante, vous allez remarquez que le terme de boléa, qui veut dire absorber, lorsque vous prenez les lettres de ce mot, vous les organisez différemment, vous avez un autre terme. Et ce terme, c'est alouv. Alouv, c'est mépriser. Au fond, pour absorber un peuple, pour le faire disparaître, pour l'assimiler, eh bien, il faut l'amener à se sentir méprisable dans sa particularité, dans sa singularité. Quand on se sent méprisable ou que les autres nous méprisent de par l'expression de notre singularité, lorsque l'on se moque de ceux qui, eh bien, vont faire attention à ne pas manger n'importe quoi, à être dans le respect strict du Shabbat, à mettre ses petites boîtes noires sur la tête et sur le bras au moment où il prie, à faire attention à ce que certains appelleraient des détails sans importance. Alors, on se sent un petit peu exclu du système, alors qu'on vit dans la société, et donc ça peut amener l'individu à un moment à dire « Non, je vais mettre de côté les oripeaux de mon judaïsme, je vais en garder les grands principes que tout le monde peut avoir, on prie, il y a des fêtes, mais voilà, mais sinon après, comme tout le monde. » Et ça, c'est au fond l'assimilation. L'assimilation, c'est pas juste nécessairement perdre totalement son identité, ne plus se sentir juif, mais c'est aussi ne pas vouloir vivre et assumer sa dimension juive à l'intérieur d'une société sans chercher à la revendiquer, sans chercher à la montrer à tout le monde dans une forme de drapeau. Regardez-moi, parce que si c'est ça, au fond, c'est beaucoup plus le support à savoir se faire exister. Non, mais c'est le vivre pleinement, vivre dans la société, mais en assumant pleinement notre identité. Alors le texte nous dit que Bilam, eh bien, il a quelqu'un d'autre qui est exactement lui. Traduction, Bilam, on dit, c'est Lavan. Alors c'est le même personnage. Très curieux, parce que Lavan, c'est le beau-père de Jacob. Et quel est le rapport entre les deux ? On dit que Bilam, c'est Lavan. Vous vous rappelez que Lavan, à son propos, on dit qu'il a voulu aussi détruire à la base le peuple, ou en tout cas ce qui était l'embryon du peuple d'Israël. Mais comment cela ? A priori, quand vous voyez le texte, c'est vrai qu'il y a des relations à un moment tendues entre Jacob et son beau-père, mais a priori, on ne voit pas en quoi il y a un désir à un moment de les faire disparaître. Eh bien, c'est très subtil parce que Lavan, justement, lui, ne demande qu'une chose à Jacob. Il lui dit, Jacob, s'il te plaît, reste chez moi avec tes enfants. Ce qui est génial. Et Jacob dit, non, je ne veux pas rester. Pourquoi ? Lavan, au fond, est un escroc. Lavan, en hébreu, ça veut dire blanc. C'est très intéressant. Mais quand vous prenez le mot Lavan, qui veut dire blanc, et vous mettez les lettres à l'envers, vous avez le mot naval, dégoûtant. Lavan, c'est quelqu'un qui présente bien, mais qui, au fond, est complètement perverti à l'intérieur de lui. Et quelque part, ce qui l'intéresse, c'est que Jacob reste avec ses enfants à ses côtés. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que la proximité qu'il va avoir avec les enfants de Jacob eh bien, va les imprégner de ses valeurs à lui, si on peut appeler ça des valeurs. Et c'est ça, au fond, c'est le même principe. C'est-à-dire, reste à mes côtés, mais surtout absorbe les valeurs qui sont les miennes et qui ici sont tout sauf des valeurs. Et Yaakov est très conscient de cela. C'est pour cela qu'il va partir et il va dire non, je ne peux pas rester dans ta proximité. Et les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils vont dire mais il est sympa le beau-père. Bon, c'est vrai qu'il était un moment borderline, mais bon, ça va. Et Yaakov sait très très bien qu'au fond, l'enjeu c'est quoi ? C'est l'imprégnation au niveau des valeurs ou des non-valeurs que véhicule un système. Et il nous ouvre, au fond, peut-être ici à cette idée fondamentale qu'on peut être parfois même dans une forme de pratique religieuse, mais avec des valeurs qui ne sont absolument pas celles que la Torah propose, des valeurs que j'appellerais, j'utilise chaque fois le terme valeur, c'est curieux, mais j'ai peut-être pas d'autres mots pour l'instant. La notion de l'égocentrisme, je suis ma propre finalité, l'essentiel c'est moi, moi et moi. On le voit beaucoup aujourd'hui dans la société, mon bonheur, mon bien-être, c'est ça qui est important, c'est ça qui est au cœur de tout. La problématique de l'altérité, donner à quelqu'un qui est radicalement différent que soi, etc. Ça ne veut pas dire bien sûr que les sociétés ne véhiculent pas des individus qui en effet possèdent ces valeurs, et encore heureux, et c'est extraordinaire. Mais ce que la société propose de manière générale, et ça, c'est en effet aussi une forme d'assimilation, parce que avoir une forme de pratique, mais ne pas vivre pleinement la totalité des valeurs de la Torah dans tous les domaines, au fond, eh bien, c'est ne pas s'inscrire dans l'essence même du message que celle-ci veut nous transmettre. Et donc, on a Bilam et Lavan, ce sont les mêmes personnages. C'est-à-dire, Bilam, c'est Boléa Ham, c'est celui qui veut absorber, comment, en nous amenant à nous sentir un peu méprisables dans notre spécificité. Vous savez, il y a quelqu'un qui va dire « Sois juif chez toi et comme les autres à l'extérieur. » Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a dit ? J'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est « Attention face aux autres, eh bien, propose de toi une image qui ne va pas choquer. » Vous savez, dans la vie, on n'a pas besoin d'être aimé de ceux qui ne nous aimeront que si on fonctionne comme ils le désirent. Comme le disait un très grand thérapeute, ils n'auront pas le mérite de nous aimer. Alors bien sûr, j'insiste beaucoup là-dessus, il ne s'agit pas ici de ce que j'appellerais des revendications identitaires dans lesquelles il y a même parfois une forme de provocation, regardez ce que je suis et ne dites rien. Non, il s'agit de vivre pleinement sa propre réalité, sa vision du monde, dans lequel par exemple, eh bien, le Shabbat est au cœur et voilà. Et c'est-à-dire, ce n'est pas l'univers de la profession qui va nous amener, par exemple, à mettre de côté des fondamentaux comme Shabbat ou d'autres. Mais ça serait encore un autre sujet beaucoup plus vaste que je ne développerai pas pour l'instant. Donc voilà, on a d'un côté ce Bilam, ce Boléa Ham, et de l'autre côté, nous avons Lavan, deux personnages qui, au fond, sont dans la même stratégie, faire disparaître lentement le peuple d'Israël de l'histoire sans avoir besoin de les détruire physiquement, mais tout simplement en les amenant presque à avoir honte de leur singularité, en les amenant à une imprégnation très très forte de ce que la société véhicule comme vision du monde et une manière d'être. Et justement, Yaakov et Israël par la suite, eh bien, vont dire non, nous vivons dans ce monde, nous vivons dans la société, nous en faisons partie, nous lui apportons tout ce qu'on peut lui apporter, mais nous préservons profondément notre identité qui passe et à la fois par l'étude de la Torah, par la pratique des mitzvot et par un modèle de fonctionnement qui correspond à une éthique qui a été transmise par cette Torah et qui, bien sûr, traverse l'histoire. Voilà donc ici quelques éléments de réflexion par rapport à cette paracha et évidemment source de réflexion et surtout de mise en action.
Ravi Lemel, merci pour ces paroles. On va essayer d'y penser ce soir. On va repartager comme on fait à chaque fois après cette émission géniale. On en reparle le soir à table, en famille. Merci à vous. Shabbat shalom, Ravi Lemel. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom. Rav Mordechai, on continue le survol de notre paracha, puis alors vous voulez intervenir sur autre chose. Vous voulez dire, donc on a deux personnages, Bilam et Balak, qui veulent assassiner le peuple juif, le maudire, maudire tout un peuple, c'est assez grossier comme façon de faire, parce que voilà, on maudit tout ce peuple de manière à le détruire. C'est vrai, malheureusement, qu'on a déjà connu. C'est pas la première fois qu'on nous fait ce coup-là, de vouloir nous détruire. Mais là, c'est vraiment, voilà, tu le maudis, ils vont mourir, ça a l'air assez simple. Mais non, vous dites, c'est beaucoup plus subtil que ça. Si on regarde les textes vraiment avec précision, en fait, il y a deux manières de faire entre Bilam et Balak. Alors, expliquez-nous et on vous écoute.
Bien oui, effectivement, mon cher Bernard, quand on voit les midrashim, c'est-à-dire le troisième niveau d'explication du texte, on découvre effectivement un projet qui est un projet à la fois, comme vous l'avez dit, grossier, en même temps complexe. Alors, quel est le premier projet d'abord de Balak et Bilam? Et ça nous est apporté par le Yalkut Shimoni dans Bamidbar au chapitre 23. Et le Midrash veut dire la chose suivante. Bilam, qui veut maudire le peuple juif, s'adresse à Dieu et lui dit « Pourquoi est-ce que tu les as reçus, eux, comme peuple? Pourquoi est-ce que tu les prends comme peuple, ces juifs-là » L'obijvil avodash et avdou le fanera kibaltem, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils font des sacrifices, c'est parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, leurs ancêtres et eux-mêmes, t'ont montré qu'ils étaient capables de te livrer un culte. Est-ce que ça n'est pas mieux, continue le Midrash, d'être servi par 70 nations? Il faut se rappeler que Bilam, représenté, était connu dans l'Antiquité comme étant le prophète des 70 nations qui régnaient dans le monde. Donc il dit, est-ce que c'est pas mieux d'être servi par 70 nations et non par une seule nation? Et là, on voit poindre un projet qui est le projet du remplacement. Remplacer le peuple juif, qui a été le projet du christianisme et de l'islam plus tard, et le projet de tous ceux, du réformisme même aujourd'hui, qui a toujours été le projet fondamental. D'abord, supplanter le peuple juif, de dire finalement qu'il n'a aucune légitimité et qu'il y a mieux. Et là, Hachem va répondre. Tov patrareva veshalva. Moi, je préfère un pain de sérénité, d'accord, qu'une maison qui est remplie de querelles. C'est celle que tu veux me faire. Tu veux rentrer ici un esprit de querelle entre mes fils et moi. Donc, on voit ici qu'il y a un premier projet chez Bilam. D'abord, il vient devant Dieu. Il dit voilà, Balak va t'offrir des sacrifices. Donc, il va te livrer lui aussi un culte. Donc, on va te reconnaître comme étant le patron de ta création. Donc il faut aussi que tu nous écoutes. Et là se trouve la grande différence. Am Israël, le peuple juif, lorsqu'il reçoit la Torah, il dit « Naaseh venishma ». Nous allons faire ce que Hachem nous ordonne. Nous nous soumettons d'abord à l'ordre d'Hachem, puis ensuite nous interrogerons ce texte et cette pensée que Hachem veut nous faire connaître, cette pratique que Hachem veut nous faire adopter. Mais d'abord nous allons nous soumettre. Mais la pratique de Balak et Bilam, c'est de dire « On remplace le peuple juif, mais on remplace aussi cette exigence de soumission à Dieu par un dialogue dans lequel finalement on est partenaire. » On est associé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que quand on regarde les noms de Balak et Bilam, on voit que Balak et Bilam, on prend les noms, la fin des noms, ça fait le mot Amalek. Balak et Bilam. Ça fait Amalek. Et les lettres qui restent, ça fait Balal, c'est-à-dire le trouble. Alors là, c'est très intéressant parce que là, on tombe sur un projet. Et là, le Midrash nous alerte sur quelque chose de fondamental. Quel est le vrai projet de Balak et Bilam? C'est pas seulement de supplanter, c'est de cannibaliser le peuple juif. Alors là, c'est très intéressant parce que nous, on connaît Amalek qui vient nous attaquer à la sortie d'Égypte militairement, pour nous détruire militairement. On connaît Aman qui se lève pour nous faire exterminer, proposer notre extermination. On connaît les nazis qui viennent nous exterminer, on connaît les Cosaques. Mais c'est quoi Balak et Bilam qui sont Amalek, qui représente Amalek, qui représente Balal, qui représente le trouble? Alors pour ça, il faut se reporter au psukim, au verset, les versets dans lesquels on peut comprendre un peu ce que c'est le mot lak et le mot am, qui forment Amalek. Le mot, cette racine de lak, on la trouve dans l'épisode où Gidon va envoyer des soldats pour combattre les Midianim, et on va lui dire, écoute, voilà, tu vas choisir donc les soldats en fonction de la manière dont ils vont se comporter. Tu vas leur faire un test. Et ce qui est dit à Gidon, c'est la chose suivante. Asher yalok bilchono, tout celui qui va laper l'eau comme un chien, minamaim, kasher yalok akelev, comme un chien pourrait laper, celui-là tu ne le prendras pas. Donc le mot Balak, il y a cette mention de réduire l'individu à la dimension animale, à la dimension de l'animalité absolue. Et la dimension de Bilam, c'est la dimension de Rim-Oum, comme on parle des braises qui sont ni incandescentes ni éteintes. C'est le trouble et la confusion. Donc il y a ici un projet idéologique qui porte en lui la confusion et l'animalerie. Rendre confus complètement les valeurs et réduire l'homme à sa dimension d'animal. Et là, on retrouve l'idéologie que les Amalécites dans le désert, lorsqu'ils attrapaient les Juifs qui étaient sortis des nuées de gloire, ils les tuaient, ils coupaient le prépuce et le jetaient vers le ciel en disant à Dieu, c'est ainsi, c'est là que tu as choisi de faire reposer ta sainteté. Il n'y a pas de sainteté dans ce monde. Il ne peut pas y avoir de sainteté dans tout ce qui touche à la sexualité, au plaisir charnel, à la nourriture, à l'argent, au commerce, aux mondanités. Dans ce monde-là, il n'y a pas de sainteté. La sainteté, c'est la spiritualité, c'est en haut. Mais ici, il n'y a pas. Mais là, on voit apparaître ici une dimension qui est dimension de la confusion. D'accord ? C'est cette dimension de Bilham. Créer la confusion et la dimension de l'animalerie. Et on va voir que finalement, lorsque Bilham se rend compte qu'il ne peut pas maudire le peuple juif, pourquoi ? Parce qu'il va dire dans ses prophéties, « Hen am levada dishkon », ce peuple, il est unique. Le mot « hen » est très intéressant parce qu'il est formé des lettres « he » et « nun » qui n'ont pas de binôme. Lorsqu'on décompose l'alphabet hébreu en binôme, on s'aperçoit que « he » et « nun » sont des lettres qui n'ont pas de binôme. Et en fait, c'est une lettre qui relève de l'unicité. À un moment donné, il va dire « hen levada dishkon », ce peuple, il est unique. Il est dans un splendide isolement. Et on sait que la plupart des bénédictions que Bilham a été forcé de dire était recouvrer une intention de destruction qui est une intention de malédiction. En fait, une partie des malédictions cachées se sont réalisées, mais il y a une seule chose qui s'est jamais réalisée. Lorsqu'il va voir les tentes avec les portes qui ne sont pas ouvertes l'une sur l'autre, lorsqu'il va voir les bêtes à midrash, lorsqu'il va voir l'étude de la Torah, là, il va reculer. Il va dire, Matovo al Yaakov, Mishkenotecha Israël. Comme elles sont belles tes tentes, ô Jacob, et tes demeures Israël, ce qui fait référence à la fois à la sainteté du peuple juif, à cette tzniout, à sa pudeur, et en même temps aux maisons d'études, aux synagogues, dans lesquelles le peuple juif livre un culte à Israël. Là, il va être obligé de reculer. Là, il ne peut pas maudire. Il est obligé de prendre acte d'une force et d'une puissance qui ne peut pas s'éteindre. Par contre, à la fin, il va quand même trouver un moyen, effectivement, d'exercer ce que finalement Balak et Bilham veulent Amalek, sauf et Tevot, la fin des mots Amalek, ce qu'ils veulent finalement imprimer dans le peuple juif. Il va dire que leur Dieu, il déteste la débauche, prostitue les filles de Midian et les filles de Moab, envoie-les donc, par un stratagème maléfique, et tu verras, tu vas provoquer une hécatombe. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est finalement notre époque. Notre époque, c'est. Oh, il faut savoir d'abord que cet épisode de Balak et Bilham intervient après 38 ans de présence dans le désert, et nos sages nous enseignent que ce qui est dit là est une parabole. À la fois, c'est un fait historique, bien entendu, mais une parabole de ce qui se passera à la fin de l'exil. À la fin de l'exil, la confusion va s'installer. Cette tentative de réduire l'individu à la taille d'un animal. Et on le voit, c'est une idéologie aujourd'hui. La théorie de l'évolution, c'est une théorie qui propose de dire que nous sommes des animaux à peine améliorés. La confusion des genres repose sur cette idée de confusion absolue de toutes les identités, y compris les identités sexuelles. L'exaltation de l'instinct, l'exaltation de la violence verbale, l'exaltation de l'insolence, tout ça, ce sont des valeurs contenues dans ce projet de Balak et Bilham. Et donc, de ça, je nous dis, en fait, ce qui s'est joué ici, c'est une des formes ultimes de tentative de destruction du peuple juif. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont chacun rencontré des ennemis qui ont voulu les détruire physiquement. Mais à la fin, Yaakov, qui est le dernier patriarche, va rencontrer Lavan. D'ailleurs, nos sages nous disent, il y a une discussion pour savoir si Lavan, c'est Bilham. Est-ce que c'est le même ou c'était le retour de Bilham? Et Lavan, c'est quelqu'un qui, à la fin, va être obligé de trouver un moyen, puisqu'il peut pas détruire Yaakov physiquement, d'essayer de trouver un moyen de le détruire spirituellement. Et ça ne va pas marcher. Là aussi, ça ne va pas marcher. Et donc, qu'est-ce qui reste après? Ben, il reste la confusion. Il reste, finalement, la dégénérescence des mœurs. Et la dégénérescence et la confusion totale au niveau des identités. Ça, c'est le projet de Balak et Bilham. C'est ce qu'ils vont tenter de mettre en place, et c'est finalement ce qui ne va pas marcher, parce que finalement, le peuple juif va sortir égratigné de cette épreuve, mais c'est mépriser complètement la force de Pinchas, de la sainteté, la force également de la teshuva, du repentir, et aussi cette possibilité de réparation qui est laissée, qui fait partie du programme même de l'humanité, la teshuva qui a été donnée avant même que la création ne soit donnée, chose qui était complètement ignorée de Balak et Bilham, qui pensait que quand l'homme a fauté, il est perdu. Eh bien non, pas du tout. Il peut se rédimer. C'est ça, c'est ce qu'on apprendra par la suite de cette paracha.
Rav Mordechai Biton, vous savez, en vous écoutant, je me faisais la réflexion sur l'actualité. Beaucoup de gens se disent, vous savez, l'Ukraine, c'est là où on a tenté de détruire le peuple juif physiquement. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est là où on a vraiment, c'est le site de Babi Yar, c'est 1 million de morts. C'est là où a été inventé, à Dieu ne plaise, Marchemam, l'idée de Shoah par balle, on mettait une balle dans la tête des juifs dès qu'on en trouvait un. Et donc voilà, l'Ukraine, c'est l'endroit où on a voulu tuer les juifs physiquement. Et en face d'eux, il y a des Russes, mais les Russes, ils ont essayé de détruire avec le communisme dont est issu Vladimir Poutine, dont a fait partie Vladimir Poutine, en étant membre du KGB. Eux, ils l'ont détruit d'une autre façon. Ils l'ont détruit en leur interdisant aux gens d'être juifs. On jetait les gens en prison. S'ils voulaient être juifs, prier, mettre les téfilines, c'est intéressant, je trouve. de faire le parallèle avec l'actualité. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Et Shabbat Shalom à Jérusalem, Rav Mordechai Habito.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maya Chadré. Bonsoir Maya Chadré.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Alors vous avez décidé de changer de côté, comme on dit en sport. Voilà, les rabbinim m'ont parlé de la paracha, évidemment, de Balak. Mais vous voulez parler du 17 Tammuz. Parce que c'est vrai, et dimanche, c'est le 17 Tammuz et c'est une date fondamentale dans l'histoire du peuple juif.
Dans notre calendrier. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 événements extrêmement tristes qui ont eu lieu le 17 Tammuz. Le premier d'entre eux, c'est la destruction des premières tables de la loi. Donc, c'est le 17 Tammuz que Moshe descend et voit la faute du veau d'or et donc brise les premières tables. Et finalement, depuis le 17 Tammuz, nous sommes juste dans l'essai de reconstituer quelque chose qui puisse ressembler à une belle histoire entre Israël et Dieu. Mais en réalité, c'est un peu comme si on avait rejoué une deuxième fois la faute originelle. Il y a un état idéal, l'état de Adam et Ève avant la faute, l'état du peuple juif avant la faute du veau d'or. Et puis finalement, maintenant, on ramasse les morceaux cassés et on essaye de réparer et on essaye de faire au mieux. Alors, le premier événement, c'est donc ces tables de la loi, mais on a l'habitude de se souvenir du jeûne du 17 Tammuz et de jeûner ce jour-là donc, sans deuiller. D'ailleurs, on marque le début de la période des 3 semaines jusqu'au 9 Av, du fait de la brèche dans la muraille de Jérusalem. Rappelons-nous, à l'époque de la fin du premier temple, on a les troupes qui assiègent Jérusalem, et elles l'assiègent depuis le dit Tevet, quelques 3 ans auparavant. Donc, Asara Betevet, c'est un jeûne par rapport à la destruction du temple. C'est le jeûne qui marque le début du siège. Puis, on a le jeûne du 17 Tammuz qui marque la brèche dans la muraille. Et enfin, on a le jeûne du 9 Av qui marque la terrible date de la destruction du premier et du deuxième temple. Alors, ça fait quand même, c'est étrange, marquer le début du processus. Le processus commence par le siège de Jérusalem, très bien. La fin du processus, évidemment, c'est la date la plus triste, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Mais cette autre date intermédiaire du 17 Tammuz, la première brèche dans la muraille, on comprend bien que s'il y a un siège et qu'à la fin il y a une destruction du temple, il y a eu une brèche dans la muraille. Ça fait partie du processus, du terrible processus dans une guerre qui a été perdue par Israël. Alors pourquoi marquer cette date par un jeûne? Pourquoi se souvenir du 17 Tammuz de cette façon-là? Et alors on a un passage dans la Gemara, Rosh Hashanah, page 18, qui nous parle donc de ces dates-là, et c'est repris à la fin du traité Ta'anit, on cite un passage dans le texte de Yirmiyahou, les Jérémiades, un passage qui nous dit, alors je vais vous le lire, et c'est très étrange, Jérémie 52, le passage nous dit que le quatrième mois, donc à partir du mois de Nissan, le quatrième c'est Tammuz, « Betisha la Chodesh » dit le verset, « le neuvième jour du mois, la famine a sévi encore plus dans la ville, il n'y a plus de pain, vaïfka a ir, et eh bien, la muraille a eu une brèche. Il y a eu une brèche dans la muraille. » Donc je répète, le neuvième jour du quatrième mois, c'est-à-dire le 9 Tammuz. Et donc là, la Gemara reprend cette date et dit, mais enfin, c'est quand même étrange. On jeûne le 17 Tammuz du fait de la brèche, et la Bible elle-même, le livre de Jérémie, nous raconte que ça a eu lieu le 9 Tammuz. Alors, il faudrait qu'on se mette d'accord. Messieurs les rabbins, mettez-vous d'accord. Est-ce que ça a eu lieu le 9 ou le 17 Tammuz? Et Rav Moshe Shapira nous explique ça de façon absolument remarquable. Et il nous explique en même temps pourquoi cette date-là, une brèche dans une muraille, c'est une date que nous devons marquer par un deuil. Qu'est-ce que ça signifie, une brèche dans une muraille? La muraille de Jérusalem, c'est le lieu défini de l'endroit de la sainteté, de l'endroit de la prophétie, qui mit Sion Tetzetora ou Dvar Hashem Mirushalayim. La parole de Dieu sort de Jérusalem. C'est-à-dire qu'un prophète qui pouvait prophétiser, il prophétisait au sein de ces murailles de Jérusalem. Mais pourquoi on a besoin de murailles ? Ce n'est pas juste pour se protéger des ennemis. Une muraille, c'est un peu comme la Havdalah de Shabbat, à la fin de Shabbat, et le Kiddush du début de Shabbat. C'est une muraille, c'est une forteresse qui marque le temps du Shabbat et qui le différencie du reste de la semaine. Et les murailles sont importantes pour créer des différences, pour que l'on puisse jouer son rôle. La ville de Jérusalem peut jouer son rôle de sainteté parce qu'elle a une muraille. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu une brèche dans la muraille ? Eh bien, les prophètes n'ont plus pu prophétiser. C'est exactement à ce moment-là qu'a cessé la prophétie à l'intérieur du peuple juif, exactement le 17 Tammuz, de la fin de l'époque du premier temple. Alors, essayons de comprendre pourquoi le texte de Jérémie nous parle du 9 Tammuz et pas du 17 Tammuz. Eh bien, en fait, pour nous faire comprendre la douleur du 17 Tammuz, pourquoi c'est grave une brèche dans une muraille, et à nous de comprendre quelle brèche il y a dans nos murailles et dans nos vies, eh bien, pour nous le faire comprendre, les Rachamim ont décidé de volontairement laisser une erreur s'inscrire à l'intérieur du texte de Jérémie. Je m'explique. Les Rachamim nous enseignent que finalement, la mémoire des personnes qui ont vécu ces tragiques événements était autour du 9 Tammuz. C'était le 9 Tammuz que ça s'est passé. Et donc, le prophète Jérémie a écrit le 9 Tammuz. Et il a laissé... Alors, il savait bien que c'était le 17 Tammuz. On a su que c'était le 17 Tammuz. Ça s'est réellement passé le 17 Tammuz. Alors, pourquoi le prophète Jérémie ne corrige pas la mémoire populaire ? Pourquoi ne dit-il pas aux gens « Mais vous faites erreur, c'était le 17 Tammuz que ça s'est passé, ce n'était pas le 9 Tammuz ?» Eh bien, en fait, il a voulu marquer dans le texte la tristesse que c'est de vivre dans une époque où il n'y a plus de murailles, plus de forteresses, c'est-à-dire qu'on ne sait plus finalement définir qui nous sommes. On ne sait plus marquer les contours de notre identité, de l'identité juive, de l'identité du Shabbat, de l'identité d'une famille, de l'identité du masculin, de l'identité du féminin. Les contours n'existent plus. Il n'y a plus de définition claire. Et quand il n'y a plus de définition claire, eh bien, on ne peut plus jouer son rôle. Et Tzion, Yerushalayim, ne peut plus jouer son rôle. Et donc, pour qu'on sente la douleur que c'est de ne plus avoir de prophétie, d'avoir tellement de courants différents, d'avoir des courants qui, malheureusement, ça sera plus le thème du 9 Av, des courants qui se battent les uns contre les autres, et fussent-ils même des courants pratiquants, on sait malheureusement, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'enseigner les choses de façon, j'irais, nette et claire. C'est le brouillard, ce n'est pas clair. En fait, c'est une muraille qui est tombée. Et quand la muraille tombe, on ne sait même plus ce que Dieu attend de nous. Et on peut croire qu'on est dans le vrai, on peut croire qu'on est dans la Torah, et on peut en réalité faire n'importe quoi. Ça, c'est parce qu'il y a une brèche dans une muraille. Et pour qu'on comprenne bien cette brèche dans la muraille, Jérémie, le prophète Jérémie, est allé jusqu'à mettre une fausse date dans le texte de la Bible, afin que l'on sache que, regardez comme c'est grave d'avoir une brèche dans une muraille. Et Tosfot, sur place dans la Gemara, nous dit, pas du tout, c'est une erreur, c'est bien le 17 Tammuz. Mais regardez comme c'est terrible de ne plus pouvoir marquer le contour de ce qui nous définit, le contour de la Torah, le contour de la parole d'Hachem, quand il n'y a plus malheureusement de prophétie, quand il n'y a plus malheureusement de consensus et de certitude de faire ce que Dieu attend de nous. Je finis juste avec ce verset dans Shir HaShirim, un très beau verset qui dit « Ani Choma, je suis une muraille, Veshadai Kemigdalot » et mes seins sont comme des tours de contrôle. Ani Choma, alors les Midrashim sur place parlent des endroits où l'on étudie la Torah, des endroits où l'on enseigne la Torah également. Ani Choma, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire « je suis une muraille » Quand nos enfants viennent et nous disent « est-ce qu'on peut aussi, est-ce qu'on peut faire comme les autres ? Est-ce que nous aussi, nous sommes de telle ou telle pratique, obédience, etc. ? Est-ce qu'on peut changer le rituel, la façon ?» Être capable de dire Ani Choma, c'est être capable de se redéfinir dans la continuité de la Massorète depuis Moshe. Malheureusement, une erreur s'est infiltrée dans le texte de Jérémie. Alors faisons bien attention à refabriquer les murailles de nos familles, les murailles de notre couple, à ne pas laisser s'infiltrer quelqu'un à l'intérieur du couple, quelqu'un d'extérieur, un parasite, ne pas laisser s'infiltrer à l'intérieur de nos familles. Ça peut sembler intolérant ce qu'on dit, ce que je suis en train de dire, mais au contraire, c'est pour protéger le rôle et la singularité du peuple d'Israël parmi les nations, et que Dieu fasse qu'on n'ait pas à jeûner cette année à Tisha B'Av.
Amen. Alors moi, je vais essayer de faire le lien avec la paracha de cette semaine, puisque vous ne l'avez pas évoqué. J'improvise sous votre contrôle. Plaisir. Allez, on essaye.
Avec plaisir.
Quelles sont belles tes tentes. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov. Qu'est-ce qu'on nous souhaite à nous? Quelle est notre bénédiction? C'est belle. Quelle est notre bénédiction? Les tentes. Être ensemble. J'imagine qu'on était par famille dans les tentes. Je ne sais pas, c'est
merveilleux. Vous. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est tellement, tellement à propos. Bravo Bernard.
En fait, j'ai réussi.
Alors oui, c'est tout à fait ça, parce que en réalité, le lien, et on peut le faire très facilement, quand Bilam, malgré lui, bénit les tentes d'Israël, qu'elles sont belles. Vous vous souvenez, ce fameux rachis sur place, les Pitréhem, leur porte, ne se faisaient pas face. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas de pénétrer l'intimité de l'autre. Et aujourd'hui, à l'ère des Instagram, des télé-réalités, etc., où il n'y a plus de distinction entre le privé et le public, on voit à quel point, finalement, recréer les frontières de nos familles, de nos maisons, c'est ô combien fondamental. Et c'est la bénédiction la plus belle qui sorte. Qu'elles sont belles, tes tentes, on ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Il y a le domaine privé, il y a le domaine public. Gardons fortement le domaine du privé.
Voilà, et c'est tout sauf discriminant. C'est merveilleux de savoir qu'on est une famille, un lieu, on va allumer nos bougies ce soir. On a une table en famille. Et bien sûr que cette vie privée, et quelque chose qu'on va garder ce soir. On va tous essayer d'y penser en pensant à ce que vous avez dit cet après-midi. Maria Chadré, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Vous retrouvez dans un instant Onek Shabbat, c'est tout de suite, avec le chanteur Raphaël Uzan, le meilleur de la musique juive à travers le monde. C'est tous les vendredis soir, après-midi, après Kabbalat Shabbat. Et pour ma part, je vous retrouve à 18h. Pour un journal enregistré. Excellente soirée à tous. Shabbat Shalom.